Il faut qu'on fasse vraiment un effort dans les 5 années qui viennent pour que le plus grand nombre de personnes possibles puissent avoir accès à la connaissance de leur séropositivité ou non. Parce que c'est vraiment le premier pas vers la recherche du traitement. Et on sait maintenant que le traitement contribue à la prévention de nouvelles infections.
En 2013, quelques 2,3 millions de personnes supplémentaires ont pu avoir accès aux médicaments pour traiter le VIH.
On fait énormément d'efforts pour essayer de combler le déficit entre le nombre de personnes vivant avec le VIH et puis celles qui ont accès au traitement. Et je pense que ces efforts portent des fruits, bien qu'on soit encore loin de combler complètement le déficit.
Même en Afrique subsaharienne, l'ONU-SIDA note que près de 90% des personnes dont le test VIH se révèle positif, accède à la thérapie.
Oui, oui, on a fait énormément de progrès au niveau de l'Afrique subsaharienne grâce aux médicaments génériques à la baisse des prix des médicaments qui ont été négociés depuis quelques années. Donc, l'accès aux médicaments, dès le moment où on a connaissance de sa sérologie, est facilité maintenant. On a aussi le Fonds mondial qui a amené des ressources et on a le PEPFAR, le programme américain, qui a amené énormément de ressources aussi en termes d'accès aux médicaments en Afrique subsaharienne.
Et la fondation Bill et Melinda Gates joue également un rôle.
Toutes les fondations, la fondation Bill et Melinda Gates, la fondation Clinton, sont très, très extrêmement actives dans la réponse au sida en Afrique subsaharienne.
Une nouvelle analyse de l'ONU-SIDA a montré que pour chaque augmentation de 10% de la couverture du traitement, il y a en fait une diminution de 1% du pourcentage des nouvelles infections parmi les personnes vivant avec le VIH.
C'est-à-dire que quand on accède au traitement et qu'on prend correctement son traitement, on diminue énormément la charge virale dans son corps et on arrive même à un point où le virus n'est pas détecté, dont les personnes ne contaminent plus. Elles portent toujours le virus, mais leur charge virale est extrêmement faible, elles ne contaminent plus. Donc il y a un lien direct entre le traitement et puis la diminution de la contamination.
Quelles sont les attentes de l'ONU-SIDA pour la rencontre de Melbourne?
Oui, les attentes de l'ONU-SIDA sont donc d'essayer de faire en sorte que le sida ne soit plus un grand problème de santé publique dans le monde autour de 2030. Donc pour ça, on voudrait que tout ce qui sont laissés en arrière soit pris en compte, qu'on fasse encore plus d'études sur où se trouve l'épidémie, quelles sont les populations qui sont les plus concernées, pourquoi est-ce que certaines populations ne sont pas prises en compte, ce qui continue de pousser à l'augmentation de l'épidémie. On voudrait s'adresser à tout ce qui concerne la discrimination, tous les facteurs qui empêchent les personnes, les individus d'accéder aux services. Donc voilà ce qu'on attend un peu de cette conférence et des 5 années à venir pour essayer de mettre fin à cette épidémie autour des années 2030.
Le plus grand nombre de séropositifs et sidéens se trouve toujours en Afrique subsaharienne. Il s'agit en moyenne de 25 millions de personnes. Est-ce qu'à Melbourne, vous allez demander des priorités spécifiques pour l'Afrique subsaharienne?
Il y en a plusieurs. D'abord, vous savez que la transmission du virus de la mère à l'enfant, c'est encore plus de 200 000 par an en Afrique au sud du Sahara, alors qu'elle a pratiquement disparu dans les autres continents. Donc, il y a des efforts énormes à faire de ce côté-là. Tout ce qui est traitement pédiatrique, pour que les formules de traitement pour les enfants soient de plus en plus disponibles. Et puis aussi, l'accès à la connaissance de si on est infecté ou pas demande encore beaucoup d'efforts en Afrique subsaharienne. Et puis, vous savez aussi que la plupart des personnes qui sont sous traitement en Afrique au sud du Sahara sont sous traitement de première et deuxième génération pour lesquelles on a obtenu des médicaments génériques. Donc, il faudrait qu'on travaille maintenant pour que les nouvelles générations de médicaments puissent être disponibles aussi en Afrique au sud du Sahara. Parce que les gens, quand ils sont mis sous traitement, c'est pour la vie. Et puis, on ne peut pas rester toute la vie sur des traitements de première génération ou de deuxième génération.
La tuberculose continue d'être la principale cause de décès parmi les séropositifs et sidéens. Est-ce que de ce côté-là, on a des espoirs?
On a des traitements qui sont disponibles depuis plusieurs années déjà. Donc, nous, on essaye de travailler très, très étroitement avec le programme Halte à la tuberculose. On essaye de faire en sorte que tous les programmes dans les pays qui s'adressent au VIH-SIDA ne le fassent pas en isolation, qu'ils tiennent en compte aussi ce qui se passe au niveau des hépatites virales et essentiellement aussi au niveau de la tuberculose. Et donc, on pense que les deux programmes peuvent vraiment se capitaliser l'un et l'autre, peuvent ajouter l'un à l'autre. et arriver à diminuer la mortalité pour cause de tuberculose. Et aussi, on s'est rendu compte que la plupart des personnes qui ont la tuberculose et qui ont en même temps le VIH-SIDA ne connaissent pas en général leur séropositivité. Donc, il y a aussi du travail à faire de ce côté-là.